Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce magazine 100% motard de 11h à 12h30 les dimanches sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire de ce magazine, retour sur le Grand Prix d'Italie qui s'est déroulé le week-end dernier sur le circuit du Mugello avec un Jorge Lorenzo dominateur et qui a enfin remporté sa première victoire sur la Ducati. Nicolas, bonjour.
Bonjour l'ami, ben oui, tout arrive.
Hein. Nicolas, je rappelle aux auditeurs que tu es un passionné, hein, Grand Prix de vitesse aussi, donc c'est pour ça qu'on t'invite à chaque fois.
Ben oui, voilà, c'est l'occasion d'en partager, ouais. Et c'est vrai que c'était un Grand Prix surprenant. Ouais, surprenant, à plusieurs titres.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé que Lorenzo, depuis, ça fait un an et demi qu'il n'était pas monté sur le podium, hein, pratiquement, même pas la troisième place. Hein.
Oui.
Et c'est parce qu'on lui a dit qu'il était viré de chez Ducati, qu'il s'est dit, tiens, bah, vous allez voir un peu peut-être ce que bien, je suis capable de faire.
Peut-être bien, piqué dans son amour propre.
Ah ouais.
Mais enfin, depuis le début de la saison, il était quand même beaucoup mieux que l'an dernier, hein, quand même. Ça allait beaucoup mieux.
Voilà, il s'est passé plein de choses hein, durant ce Grand Prix, avec Marc Marquez qui finalement a chuté,
oui.
Qui s'est retrouvé 16e, qui n'aurait pas rentré dans les points, et donc il perd des points au championnat du monde.
Tout à fait.
Finalement,
il a encore de l'avance, mais il en a perdu pas mal.
Et deuxième, on dit toujours le vieux. Bah oui, le vieux. Il est finalement le vieux Rossi, Valentino Rossi. Il est deuxième au championnat.
Il est deuxième du championnat et troisième
sur le
podium.
Troisième sur le Mugello. Voilà, très bien. Eh bien, on va avoir toute l'émission pour en parler. Bah, une partie de l'émission déjà. La suite du sommaire. Nous allons parler de Dragster avec le président de l'ATD, Eric Angeloni, au téléphone. Balade et trail en France avec le Cocorico Rando qui propose 5 événements en 2018. Présent dans les studios, alors Michel et Alex Desprez, bonjour.
Salut.
Ouais,
bonjour. Dites-moi un peu ce que c'est que Cocorico Rando. Ça fait un peu marrant le nom, Cocorico Rando.
Ah bah Cocorico parce que c'est des événements
en France. Ça fait franchouillard.
Donc c'est voilà, une petite boîte d'événementiel spécialisée dans les événements moto off-road, donc dédiée au trail et maxi-trail. Donc on a 5 événements dans l'année, le Marche Moto Madness, la Paris-Dunkerque, la Qatar Moto Trail, la Vercingétorix et la Royale.
La Royale, c'est un peu comme les pizzas. Hein.
Ouais,
et la Royale.
C'est ça. Avec des pepperonix.
D'accord. Donc ça se passe comme ça, c'est toujours généralement sur 3 jours. En gros, c'est 3 jours. Il y a sauf une ou c'est 2 jours.
Sauf le March Moto Madness qui dure 2 jours. Mais sinon, ouais, c'est du vendredi, samedi, dimanche. En règle générale, le dernier week-end du mois.
Quoi. Et donc ça se passe en France, donc, c'est simple. On peut participer, on finit le travail et puis hop, direction la rando. Quoi,
c'est ça. Ouais. Puis, c'est l'événement. C'est la facilité avec ça, ouais, de faire des événements.
Et c'est réservé qu'au trail ?
Bon, réservé, non. On a toujours des petites exceptions. On a quelques Ourals. Après, bon, il y a forcément quelques enduros. Mais c'est dédié au trail. Quoi. C'est
très bien. Bon, écoute, on parlera dans le détail hein, de ces randos, Cocorico Rando. À retenir, le deuxième rassemblement des Ch'ti Trike de Billy Berlot qui aura lieu les 29, 30 et 1er juillet. Et avec nous, pour nous donner le programme, Nathalie au téléphone. Et pour finir, de l'info tout terrain. Il fallait mettre de l'info tout terrain. Avec Gilou, du site internet Mes Motocross, qui a pour vocation de conserver en mémoire les historiques et résultats de tous les principaux événements qui génèrent l'histoire du motocross. Voilà, tout ça, c'est le programme et les sommaires de cette émission. Bonjour Laurent.
Oh, yeah.
pour mettre dans le bain. C'est Dovizioso. Record battu, 356,5 km/h pour la Ducati Dodovi en ligne droite. Je rappelle que le TGV, ça roule à 300. Hein.
Ah, ouais.
Donc,
ça défile. Hein.
Ouais. Ça doit défiler quand même. Hein.
C'est sûr.
Voilà.
Un gros cœur.
Ouais. Donc on a eu un Grand Prix de Mugello assez surprenant parce que, bon, déjà, on est en Italie et le samedi, l'ami, je t'ai vu le GP en replay parce que tu étais au Coupe Moto Légende.
J'étais au Coupe Moto Légende, effectivement.
Voilà, et ça avait commencé par une super pole de Rossi. Donc le
mais
week-end...
Mais je le savais, on me l'avait dit. Samedi, on me l'avait dit.
Ils avaient prévenu sur le circuit, ouais. Donc, ça faisait un bail quand même que c'était pas arrivé, une pole de Rossi, parce que Rossi se défend, mais aller chercher la pole, ça faisait un moment que c'était pas arrivé.
Comme Zarco en France, une pole en France aussi.
Voilà. Et puis, en plus, une pole devant son public italien, hein, donc avec un nouveau record du circuit. Donc, autant dire que le circuit de Mugello était repeint en jaune dès le samedi. Hein, ça y allait, les fumigènes, hein, c'était la folie. Et le dimanche pour la course, c'était surprenant parce qu'on a vu un Lorenzo qui mène de bout en bout, hein, comme il aime faire, hein, à la façon 2015 chez Yamaha, et il a décroché enfin sa première victoire chez Ducati, hein, tout arrive, on n'y croyait plus, on disait Lorenzo il est foutu, plus personne n'en voulait, on disait il ne va même pas trouver une moto pour l'année prochaine, et puis voilà pas qu'il a sa première victoire sur Ducati. Ducati c'est bien aussi parce que c'est un doublé, hein. Le deuxième c'est Dovizioso, donc pareil, un doublé Ducati c'est pas arrivé depuis au moins 1945,
hein. Oui, ça, c'est
voilà. Et en plus en Italie, hein, donc
c'est quand même bizarre, hein, Nico,
c'est quand même dingue, ouais.
C'est quand même curieux, on se demande si c'est pas truqué quand même.
Non. Deuxième, il a fait une belle course, hein, parce qu'il est parti de la 7ème place, donc il a jamais pu rattraper Lorenzo, mais il a fait une belle course. Et puis, alors, enfin, Atlas Benatlist, Rossi. Hein. Rossi rayonnant sur le podium. Troisième fois qu'il est sur la troisième marche.
Il s'est battu.
Il s'est battu. Ouais, il a eu du mal, il s'est battu, mais il l'a fait. Troisième fois qu'il est sur la troisième marche cette saison. Et deuxième fois consécutive, puisqu'il était déjà troisième moment. Donc, il est toujours rayonnant. 39 ans, hein, quand même. Impressionnant. Chapeau. Hein. Et Marquez, le meilleur pilote du monde, hein, aux yeux de tout le monde, hein, par terre. Par terre, il a sauvé, il sauve maintenant deux chutes sur trois, mais il en reste.
Alors tiens, il en reste une. Petite parenthèse, Nico, c'est que dans une revue moto, hein, de cette semaine, on a une photo avec le public tout
sans
en jaune,
standing ovation.
Hein, voilà. Ouais. Et puis on a une cuvette de chiottes. Enfin, il y a un spectateur qui soulève une cuvette de chiottes. Le fond, il est orange. Et puis on a le numéro de Marc Marquez, hein, 93,
voilà.
sur le battant, hein, sur voilà. Alors il dit, bah, pourvu que ça ne vienne pas quand même comme au football, quoi. Hein. Donc ça, c'est pas d'enfant.
On n'en est pas loin. Hein.
Pourvu que les supporters de Rossi et de Marquez viennent pas se foutre sur la tronche.
Il fait pas bon s'appeler Marquez quand on va en Italie. Hein,
c'est sûr.
Ouais. Donc Marquez est tombé par terre. À chaque fois que Marquez tombe, standing ovation, ils applaudissent, tout le bazar. C'est assez terrible. Hein. Et donc il a tenté un sauvetage. Et il reste sur la moto quand il chute en course. Il tente un sauvetage qu'il n'a pas réussi cette fois. Et on admire tous Rossi, mais il faut bien reconnaître que tous ses fans, ils sont un petit peu lourds. Hein, c'est un peu pénible. Applaudir à chaque chute de Marquez, ils ont même fait une tombe pour Marquez sur la pelouse.
Ça devient un peu douteux, c'est lourd. Hein.
Et ils l'ont fait tout le week-end, et ils l'ont même fait aux essais quelques minutes après que la terrible chute de Michele Pirro. Donc Pirro qui tombe, Marquez tombe un petit peu après, et alors que Pirro, on le pensait entre la vie et la mort, hein, on savait pas les bonnes nouvelles.
Pirro, c'est sur cette fameuse ligne droite du circuit du Mugello, hein. Elle se termine par une légère bosse apparemment, oui. et le freinage il est juste après cette bosse,
voilà.
Et apparemment il a voulu freiner et là plus de frein,
les plaquettes se sont écartées
après la bosse.
Voilà, et puis du coup il avait pas de frein avant, il a freiné de l'arrière, la moto déséquilibrée, elle s'est tortillée, il a valdingué
ligne droite 300 km/h, hein.
Plus de 300 km/h, ouais, c'est de la folie. Et il n'avait pas d'airbag parce qu'il est wildcard et il n'y avait pas de...
Oui, parce que normalement, tous les pilotes doivent avoir un airbag.
Voilà, maintenant, dans toutes les catégories.
Depuis le début du championnat 2018.
Voilà. Mais lui, il n'en avait pas, comme il est wildcard et pilote d'essai, il n'y avait pas de truc à sa taille. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais bon. Donc, il a, en plus, il a tapé vraiment, quoi. Donc oui, et donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu un doublé Suzuki, hein, 4e et 5e place pour Yannon et Rins. Les deux motos Suzuki dans le top 5, c'est pas arrivé non plus depuis un petit moment, hein. Elles vont beaucoup mieux cette année, hein, les Suzuki. Et puis Petrucci qui s'est fait pousser par Marquez dans le premier tour, hein, c'est encore un beau geste de Marquez, c'est toujours chaud. Hein. Il râlait Petrucci parce qu'il disait si ça avait été Rossi à ma place, Marquez aurait été sanctionné. Parce que moi, il n'y a rien eu du tout. Et il s'est retrouvé 13e place après ça. Il a réussi à remonter jusqu'à 3e place. Et puis finalement, il a tellement tapé dans ses pneus qu'il a décroché en fin de course. Mais il a fait une belle course. Et puis oui, en fait, le problème, c'est un petit peu à la tête du client, hein, le règlement. Il y a un vrai problème. Et puis l'autre événement de ce Grand Prix, pour nous autres Français, hein, c'est la contre-performance de...
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, au Mans, il y a 15 jours, Johann Zarco, il fait la pole. Pendant 5-6 tours, enfin même 10-12 tours, hein, il est derrière Lorenzo, en fait.
Oui, deuxième, oui.
Et donc, ça prouve qu'il est performant. Et puis ouais. on le retrouve en 10e position.
Oui, voilà, il s'est qualifié 9e. Et en course, il s'est fait doubler par Vinales, par Bautista. Il finit 10e et pourtant, il a profité des chutes de Miller et Marquez qui étaient devant lui. Donc, c'est vraiment son plus mauvais résultat depuis qu'il est arrivé en MotoGP et qu'il a terminé les courses, parce qu'il est tombé deux fois. Et dès les essais, on l'a vu, ça allait pas. C'est la première fois qu'on le voit comme ça énervé. Il a engueulé Guy Coulon.
Puis, il avait l'air d'en vouloir à son mécanicien.
Alors Guy Coulon, son chef mécanicien, il encaissait, philosophe, sans rien dire. On voyait Zarco se plaindre. Une moto qui manque d'adhérence. Il disait se battre comme un fou et que ses temps progressaient pas. Et d'ailleurs, en la 4e séance d'essai, il est tombé. Il est tombé, donc non, ça allait pas du tout. Et je sais pas si c'est une mauvaise dynamique suite à sa chute au Grand Prix de France au Mans, parce que c'est quand même vraiment bizarre. Pour une fois, les Yamaha officielles, elles étaient bien, elles fonctionnaient. Rossi et Vinales encadraient Lorenzo sur la première ligne de départ, sur la grille. Donc ils s'étaient qualifiés en première ligne, les deux Yamaha. Et puis chez Tech 3, si on regarde dans l'autre box, le jeune Chiarin, il s'est qualifié 14e. Il a fait sa course en finissant 2e, 12e, meilleur rookie, et donc juste deux places derrière Zarco. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe avec Zarco. Mais en même temps, il faut voir que c'est aussi les autres qui ont progressé. Parce que l'an dernier, Lorenzo, il était à l'ouest. Il n'arrivait pas à se débrouiller, il n'arrivait pas à faire tourner la Ducati. Et puis, les Suzuki, elles ne fonctionnaient pas bien non plus. Et donc là, il avait deux Suzuki devant lui. Donc c'est peut-être un début d'explication. Mais c'est un peu inquiétant parce que, comme on sait qu'il va chez KTM l'an prochain, ça laisse se présager des jours. Il a mangé son pain blanc, on dirait.
Peut-être. Hein
peut-être. Ouais.
Mmh. Un morceau de musique ?
Un petit morceau de musique.
Allez, tout de suite, et on se retrouve après.
That's how. the river of whiskey, and I was a diving dove. The river of whiskey, and I was a diving dove. I climbed to the bottom and never would I come up.
Sur le Grand Prix du Mugello, le Grand Prix d'Italie. Semaine dernière, Nico, on a appris, alors on revient sur Jorge Lorenzo, on a appris cette semaine le transfert.
Voilà.
Parce qu'on ne savait pas où il allait. On savait qu'il était viré chez Ducati, mais on ne savait pas où il allait.
Voilà. Donc c'est vrai que les transferts, cette année, je trouve que c'est de plus en plus tôt. Hein. On vit la saison prochaine avant même d'avoir vécu celle-ci.
Celle-ci, hein. Oui.
C'est assez bizarre. Par exemple, Yannone, c'est le meilleur pilote chez Suzuki, hein, il a fait quand même cette année 2 podiums et une 4e place ben justement au Mugello, c'est pas mal. Et ben il est remercié. Il est remercié parce que l'an dernier il n'avait rien fait, mais l'an dernier il ne marchait pas à la Suzuki. Et il va probablement être remplacé l'an prochain par Johan Mir. Johan Mir, c'est celui qui a gagné en Moto 3 l'an dernier et qui donc n'aura fait qu'une seule saison en Moto 2 cette année. Et donc Suzuki va se retrouver avec Rins et Mir. Ils aiment bien les noms courts, hein, visiblement. Et donc ça fait 2 jeunes pour développer une moto. C'est pas l'idéal, hein, a priori. Il y a pas, voilà. Alors que Yannone, bah, il se débrouille très bien cette année. Et il va se retrouver soit à pied, soit chez Aprilia, apparemment. Chez IAM, c'est un petit peu pareil. Vinales, il était très prometteur, mais il y a 2 ans. L'an dernier, il n'a pas convaincu. Il a gagné en première partie de saison, puis après, ça s'est filoché. Et puis, il a pourtant été reconduit dès le tout début de saison. Donc, c'est vraiment bizarre. Et quand on pense à Zarco, la révélation de l'an dernier, qui n'a pas trouvé sa place et qui va en être réduit quasiment à faire du développement pour chez KTM, hein, qui, ils sont pas encore au niveau. Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour mettre au niveau...
Alors, c'est curieux, parce que KTM, quand même, il est premier en Moto 3, hein.
Alors, ils sont présents sur...
Deuxième en Moto 2, bien que c'est le cadre, la partie
avec Oliveira, oui. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une super bonne équipe, KTM. Ils ont des moyens, ils ont de la technologie. Mais le MotoGP, c'est le top du top. On ne rattrape pas comme ça 20 ans d'évolution en quelques années. Il faut beaucoup de temps. Je pense que ça va être dur, à moins qu'ils trouvent... vraiment une idée révolutionnaire, qui soit, voilà, mais ça va être compliqué de faire aussi bien. En plus, ils sont partis sur des cadres qui sont en treillis, donc c'est une technologie que n'ont pas les autres. Les autres, c'est des cadres en alu, en coffrage alu. Donc il n'y a pas de référence vraiment. Ils peuvent pas dire on va copier un tel où ça marche bien. Ils partent sur une feuille blanche. Donc on verra bien. Enfin, moi, j'ai du mal à croire qu'on arrive au top niveau aussi rapidement. Même avec Zarco. D'ailleurs, Zarco, quand sa moto elle va pas trop, bah, il va pas trop non plus. Il
n'y
a pas de secret. Hein. C'est pas magicien. Donc voilà. Et puis alors, effectivement, tu parlais du cas Lorenzo.
Alors là, c'est,
le Lorenzo, il a coûté très cher à Ducati, hein, parce que il est remercié alors qu'il vient de gagner. Hein, on lui demande de faire ses valises. C'est malin parce que s'il commence à enfiler les victoires maintenant. Donc voilà. Et Lorenzo, il déteste l'échec sur la piste. Par contre, il aime bien, il les aime bien sur son compte.
Ouais. Et, il paraît que le Ducati avait fait un gros chèque. Hein.
Oui, voilà.
Et un peu, c'est Dovi qui était un peu jaloux quand même aussi.
Bah exactement. Il était payé 8 fois plus que Dovi. Ah, oui. Donc, ah, oui. Et c'est Dovi qui a ramené le résultat.
C'est quand on parle de millions. Hein.
Voilà. Et donc bah là, il a signé chez Honda Repsol donc, pour 4 millions d'euros. Donc, et il va remplacer Pedrosa. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont annoncé, officiellement que Lorenzo rejoignait Honda, mais ils auraient pu avoir la délicatesse avant de dire que Pedrosa partait. Je sais pas, parce que là, on a l'impression qu'il pousse et qu'il va virer.
Alors, Pedrosa, donc, il risque de.
Alors, Pedrosa, de plus voir. Pedrosa, lui, ça va être compliqué parce que il reste plus grand chose. Il reste éventuellement une Yamaha satellite. Et puis, ou bien là, il va prendre sa retraite. Hein. Je pense que. Je sais pas quel âge il a, Pedrosa, mais il doit être 27-28. Hein, donc.
C'est l'âge de Zarco.
C'est l'âge de Zarco.
Ouais, 27. Ouais.
Donc, il a déjà. Pourtant, ouais. Et lui, ça fait longtemps qu'il est en MotoGP. Oui. Hein, ça fait 10 ans qu'il est sur cette.
Donc, Marquez, Lorenzo, sur les mêmes machines, dans le team officiel.
Oui, alors.
Ça va faire, à mon avis, des étincelles. Hein.
Ça va faire deux têtes d'affiche.
Deux têtes d'affiche.
Oui, qui vont. Voilà. Mais par contre, je ne suis pas sûr que ça convienne mieux à Lorenzo. Parce que c'est vrai que la Ducati est particulière, mais elle a beaucoup, beaucoup progressé. Et la Honda, elle n'est pas facile. Hein. On se souvient de Stoner qui, entre les mains desquelles, elle était pas du tout stable. Hein. Elle gigotait tout le temps. Et puis Marquez, il tombe souvent. Donc c'est pas une moto facile. Et Lorenzo, quand il a pas le feeling de l'avant, il est pas bon. Il aime pas ça. Il se bloque, il se contracte. Et puis c'est aussi une moto qu'il faut brutaliser. Et c'est pas le style de Lorenzo. Donc moi, je ne suis pas sûr que ça lui convienne. Le meilleur exemple pour moi, c'est Miller et Rabat. Miller et Rabat, l'an dernier, ils galéraient tous les deux sur une Honda. Et cette année, ils sont sur Ducati. Et ça va beaucoup mieux, ils revivent. Donc, quand on compare la Honda à la Ducati, voir ces gars-là, je pense que ce n'est pas innocent. Et ce n'est pas sûr qu'il refasse son chemin de croix, encore une fois, chez Honda. Hein, Lorenzo, il va être abonné au chemin de croix.
Ouais, bah, écoute, destin. La réponse, voilà. L'année prochaine, pour l'instant, on va suivre déjà celui-là.
Voilà.
Le prochain Grand Prix, c'est Barcelone, hein, dans 15 jours.
Voilà.
Voilà.
Et puis, donc, celui qui va prendre la place de Lorenzo dans le team officiel, c'est Petrucci. Alors, Petrucci, il a déjà cette moto-là, hein, puisqu'il est dans le team Pramac pour l'instant. Ouais. Mais eux, ils ont été prudents chez Ducati. Maintenant, ils signent des contrats que pour un an.
Ah oui.
Ils sont échaudés.
Ils divisent le chèque par deux. Arrache le chèque, il dit t'auras le morceau l'année prochaine.
Si t'as réussi. Et donc, le pauvre Pedrosa, on va bien voir. Et puis enfin, la dernière annonce, c'est Chérin, hein, qui reste chez Tech 3. Mais Tech 3 change de moto, donc il va être sur KTM l'an prochain. Avec le portugais Miguel Oliveira, qui est lui pour l'instant en KTM sur Moto 2. Donc ça fera le Team Tech 3 de l'an prochain, ça sera Chérin et Miguel Oliveira. Et le prochain MotoGP, c'est vrai, c'est dimanche 17 juin en Catalogne. Et nous, on va le louper, la miche. Hein, parce que.
Ah tiens, on va le louper.
On sera en plein cœur du Cachemire, en route
déjà,
pour le Tour du Monde.
Au Cachemire.
sur une vénérable Royal Enfield.
Ouais, on essaiera d'avoir. Je sais pas, la retransmission là-bas.
Il n'y a pas d'internet, pas de téléphone, pas d'internet, juste des rochers et des motos.
Des rochers, des motos. Bon, écoute, on demandera de l'enregistrer à Laurent, tiens, d'enregistrer le Grand Prix. Il nous repassera si on revient, parce qu'on ne sait pas. Allez, musique. The right one will follow. Left foot, right foot, that's how it goes. As soon as the right hand has got to make a stand, I done tuned my box to a chord, got a whole band right there. And now next in line, the left hand's eyes up. I'm at 90 degrees. Au téléphone, nous avons Eric Angeloni, le président de l'ATD. Bonjour Eric.
Bonjour.
Bonjour. On t'a appelé parce que en fait, le Dragster revient dans le nord de la France, à Clastres, exactement, à 100 km de Lille, dans l'Aisne, oui, le circuit dans l'Aisne. Voilà. Et donc ça va se passer le 23, 24 juin et le 28 et 29 juillet à Clastres, sur la ligne droite de Clastres.
Oui. Voilà. Tout à fait. Donc c'est le 6e European Dragster et 7e European Dragster.
Voilà. Donc au programme, il y a pour l'ATD, il y a cinq manches du trophée, c'est ça?
Pour le championnat de France moto, il y a 5 manches. Oui.
D'accord. À Vinazzano, c'est ça? Racway.
Vinazzano, oui.
En Italie, Clastres, deux fois oui. Clastres pour la moto et pour la voiture, et un aussi à Vichy.
Tout à fait, oui.
Voilà.
Pour le trophée, il y a 4 courses.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu du 23-24? Là, c'est surtout les voitures, en fait, les catégories donc voitures, avec des catégories juniors.
Oui, tout à fait. Donc, pour le 6e European Dragster, donc le 23-24 juin, donc là, vous n'aurez que la partie compétition automobile, voiture, avec 4 grosses catégories. Donc, ça commence par les juniors dragster. Donc là, c'est des petits dragsters pour les enfants, de 8 à 18 ans.
Ah, donc à 8 ans, on peut déjà conduire un dragster?
Tout à fait, oui. Ils roulent sur 200 mètres.
Hein. Oui. Et c'est quel cylindre?
Alors, c'est des bases Bridget Stratton 500 cm3 qui tournent au méthanol.
D'accord, ça doit déjà bien ça doit bien pousser déjà.
Ça fait environ une centaine de chevaux quand même.
Oui, quand même. Très bien, oui.
Ça pousse déjà très fort. Oui. Donc pour les plus rapides, alors selon l'âge, ils n'ont pas le droit de dépasser un temps. mais pour les plus vieux, ils sont à peu près à 130-140 km/h ou 200 mètres départ arrêté.
D'accord.
Après, nous avons toute la catégorie street run, donc là, c'est plus du véhicule de tourisme ou du véhicule à tout petit peu préparé, mais la plupart sont encore des véhicules routiers.
Ça, c'est pour les amateurs, donc, en fait. Les amateurs, on vient avec sa voiture, c'est ça?
Ouais, oui, on vient avec sa voiture, on s'inscrit et on peut rouler, faire une manche du trophée sans problème.
D'accord.
Donc ça va de là, donc c'est du 400 mètres départ arrêté, et ça va de 18 secondes pour les moins rapides à 12 secondes pour les plus rapides.
Comment ça marche? Il y a une sélection par le temps ou non ça marche par, alors, par le temps, en fait, c'est le temps, oui, qu'on s'est fixé.
Voilà. On se fixe un temps avant de faire son run de 400 mètres. Voilà. Il faut s'en rapprocher sans passer en dessous.
D'accord.
Donc c'est pour ça qu'après, au niveau de l'Arbre de Noël, au niveau des éliminatoires, on voit les voitures partir en décalé parce que c'est par rapport au temps qu'elles ont annoncé.
D'accord.
Donc même si on a moins de puissance que son adversaire, on peut quand même gagner.
Si on a mis un temps donné, si on s'est donné un temps, en fait.
On donne un temps à chaque fois.
Voilà, d'accord.
À chaque run. Donc, par exemple, si vous demandez 16 secondes et que votre concurrent demande 12 secondes, vous allez partir. La personne qui est en 7 secondes va partir 4 secondes avant la personne qui est en 12 secondes.
Oui.
Et le but, c'est de passer la ligne le premier sans aller en dessous du temps demandé.
Demandé, d'accord. Très bien.
Voilà. Et après, donc, nous avons les deux catégories, on va dire, un peu plus pro. Donc là, c'est des véhicules dédiés vraiment qu'à ce sport. Donc, c'est le Pro IT. Pro IT et Super Pro IT. Donc là, le Pro IT, c'est jusqu'à 9 secondes. Et le Super Pro, donc pour classe, c'est limité à 7 secondes et 10.
Donc ça, c'est les gros véhicules, enfin, c'est les trucs qui sont
puissants.
Donc, puissants, là, ça. Ouais. Donc là, on a des voitures. On a encore des voitures, mais très très puissantes, qui font entre 1000 et 2000 chevaux.
Ah, oui.
Et on a aussi des rails, donc des rails ou des altered, qu'on appelle châssis court. Donc là où il y a vraiment que très long pour que ça aille le plus droit possible.
D'accord. Ça, c'est pour le 23-24 juin, hein, sur les circuits de Clastres.
Oui.
Et ensuite,
23-24 et 28-29.
Et là, c'est consacré uniquement à la moto.
Non, c'est les deux.
Ah, c'est les deux aussi. D'accord.
Le 28-29, on aura les deux. Donc il y aura le championnat de France de Drifter Moto. Et le trophée Dragster ATD.
D'accord. Donc si on parle de moto, il y a de la promotion.
Moto, il y a de la promotion, du street bike.
Oui.
Donc street bike 4 cylindres et du street bike twin 10 cylindres.
Oui.
Après, on a du pro stock et competition bike.
D'accord.
Donc pareil, pro stock, c'est des motos dédiées. Et competition bike, là, c'est vous avez le droit de tout faire. Donc là, il y a des moteurs compressés, nitrométhane, protoxyde d'azote, vraiment de tout.
On voit de tout, quoi. Il y a aussi une catégorie VMAX.
Voilà, il y a aussi les VMAX qui ont créé une catégorie parce qu'ils viennent nombreux. Et donc, il y a une catégorie dédiée aux VMAX.
Voilà, donc c'est sur le week-end. Donc on rappelle, c'est de 9h à 21h le samedi.
Oui.
Et le dimanche, c'est de 9h.
À 19h.
À 19h le dimanche. Il y a un prix d'entrée. Le samedi, pour le samedi, et un prix pour le dimanche ou pour le week-end?
Alors, c'est 20€ le week-end ou 15€ la journée.
Très bien, voilà. Donc ça, on rappelle le 23-24 et 28... 20, alors, 23-24 juin et 28-29 juillet, donc sur le circuit de Clastres. À Clastres, c'est la ligne droite est suffisante? La ligne, parce qu'il y a...
Oui.
Ça fait pas longtemps que c'est qu'elle existe, cette ligne droite?
Ah, si, ça fait très longtemps.
Ça fait
longtemps exploité, pour le Dragster, ça fait pas très longtemps. Ça fait plus depuis 2015. Elle fait 1400 mètres, exactement.
D'accord.
Donc,
bien.
On a 400 mètres d'accélération et au niveau réglementation, c'est 600 mètres de freinage et 200 mètres de sécurité. Donc, il nous faut normalement 1 km. Donc, on a largement la distance d'homologation pour
d'accord.
la piste.
Très bien. Voilà. Eh bien, Eric, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et puis, bonne et compétition puis, pour le 23-24 et 28-29 juillet. Hein.
D'accord, à bientôt à Clastres.
Merci.
Merci.
Au revoir, au revoir.
Au revoir.
I said, oh baby, won't you hear what I say? How won't you love it? around. Said you know I've been waiting to die.
Rico Rando, c'est ce que propose Michel. Et alors, je ne sais pas si Michel, tu proposes, on peut dire aussi, en même temps que le fiston.
Voilà, bah, hein, je dirais que le fiston est celui qui s'occupe de l'affaire. Et bah, moi, je m'occupe plutôt de logistique et de l'aider de temps en temps.
Voilà. Donc alors on rappelle un petit peu, on l'a dit dans le sommaire, qu'est-ce que c'est que ce fameux Cocorico Rando, hein, qui propose des balades trail en France, uniquement en France.
Voilà, on est pour l'instant agence événementielle vraiment spécialisée dans les randonnées, surtout pour les trails et maxi trails en France. Hein. On sait un peu, on essaie de vivre des petites aventures, enfin de découvrir les régions françaises différemment, d'une autre façon, en passant par les chemins.
Alors est-ce qu'il y a réellement il y a un public, parce que j'ai l'impression que ça prend un peu d'ampleur, parce qu'on avait il y a 15 jours on avait Trail Enduro là alors je sais pas s'il fait la même chose que vous, mais c'est pareil, c'est de la balade aussi,
voilà, c'est à peu près la même chose, c'est il y a clairement un engouement pour le trail en France et pour l'aventure en fait, et du coup de se dire que tiens, ma 1200 GS, mon Africa Twin, en fait elle est complètement capable d'aller dans les chemins. Et du coup, bah, y a beaucoup plus. Alors, puisque tu parles de plus en plus de gens qui s'y essayent.
Parce que tu parles de marque et de cylindrée, c'est ouvert à toutes les cylindrées et au trail ou à des motos éventuellement de route qui pourraient éventuellement aussi faire ce genre de choses.
Alors, moto de route, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a toujours la petite notion de garde au sol, mieux vaut avoir un sabot moteur. Étant donné que c'est des motos qui, les personnes les utilisent tous les jours, ce serait dommage d'aller avec une moto qui n'est pas adaptée et de l'abîmer, quoi. Donc, on est clairement plus adressé au trail et maxi trail, donc de 500-600 cm3 à 1200. Et voilà, après l'idée c'est de vivre une aventure pendant 3 jours, donc de charger sa moto avec le matos de camping, etc. Donc il faut quand même une moto adaptée.
On va voir un peu comment on vit pendant 3 jours, donc effectivement soit camping, mais j'ai vu aussi dans le programme sur internet, parce que vous avez un site internet, que s'il y en a qui sont pas trop au camping, ils peuvent éventuellement aller à l'hôtel. On leur propose des listes d'hôtels
on suggère des hôtels à proximité du lieu de bivouac. Après, pour nos lieux de bivouac, on essaye de trouver des campings qui peuvent proposer, par exemple, du locatif aussi, donc des mobil-homes, etc. quoi, pour avoir ce côté confort quand même en arrivant, parce qu'après, on a fait entre 8 et 10 heures de moto.
Alors, c'est combien de kilomètres et d'heures de moto sur la journée, alors sur 3 jours?
Donc, sur 3 jours, on part sur une base d'à peu près 700 kilomètres. Donc, ça fait du 200-250 kilomètres par jour, mais avec une trace qui est au moins 50% chemin, 50% route. Donc on a l'impression que, tiens, 200 km dans une journée, c'est facile à faire, mais c'est long.
Fait combien en heure de selle, alors?
Ça peut faire 8 heures, 10 heures, 10 heures. Ça dépend de comment on roule, quoi. Mais il y en a qui le font en moins, mais en règle générale, c'est du 8 heures, 10 heures.
On rappelle que ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course, c'est simplement pour le plaisir, on part avec...
C'est ça, le principal, c'est de passer un bon moment.
De passer un très bon moment entre motards. De la balade, de se retrouver le soir, de raconter un peu tous les péripéties qu'on peut avoir.
C'est ça. Les événements, c'est que de la moto, c'est le côté convivial à la fin, à l'arrivée au bivouac.
Il y a deux choses. En fait, il faut préparer au mieux la balade des pilotes. Hein. Donc, généralement, ils sont équipés d'un trépied qui les aide quand même à suivre la trace assez facilement. Mais surtout, notre vocation, c'est aussi d'accueillir et de faire que les pilotes retrouvent une ambiance et soient à l'aise à l'arrivée, puissent se doucher, manger à l'abri.
C'est au camping, il y a des douches alors. Ou vous qui montez des douches un peu comme ça?
Oui, c'est en fonction des lieux, des lieux qu'on trouve. Donc soit les campings sont équipés de sanitaires convenables, soit nous on ramène des caravanes de douches.
Ça fait des mini-bivouacs Dakar, ça alors.
Exactement. C'est le début de l'aventure. Hein, voilà. C'est pour que, voilà, pour que nos pilotes qui rêvent quelquefois d'aller plus loin puissent au moins s'entraîner une fois ou deux en France.
Oui, en France, oui, effectivement. Et aussi, on parle de compétences, parce qu'il y a peut-être les vrais, ceux qui ont déjà fait des rallyes raids, donc à mon avis, ils n'ont pas trop peur de faire ce que vous organisez. Ah, non, par contre, il y a peut-être des débutants aussi qui, là, eux, hésitent.
Ouais. Alors nous, on
comment vous faites justement, il faut soit homogène.
Ouais, on s'adresse particulièrement aux débutants, vu que voilà, les trails attirent du monde. Et du coup, on passe de toute façon par des chemins carrossables. Il y a jamais, c'est jamais trop de difficultés. Mais pour un débutant qui a jamais mis ses roues dans la terre, tout de suite, ça peut changer.
Si vous avez une saison qui est pluvieuse avec de la boue, de l'eau, des guets à passer,
forcément très dépendant du temps. Et du coup, c'est pour ça qu'on propose plusieurs traces. Donc il y a la trace extrême, qu'on appelle extrême, mais qui n'est finalement pas si extrême que ça, vu que ça reste du chemin carrossable. Mais voilà, pour quelqu'un qui met ses premières roues dans la terre, ce sera extrême. On propose la trace aventure, donc qui est basée sur la trace extrême, mais dès qu'on va croiser quelque chose de vraiment compliqué, on va faire un contournement aventure, et donc c'est l'assemblage de tous ces contournements aventure qui fera la trace aventure. Et après, on a également la trace route, donc qui passe par les petites routes touristiques. Donc voilà, dès qu'on a un coup de fatigue, c'est quand même plus sûr de se mettre sur la trace route. Et puis aussi bon, pour les accompagnants de tous les motards qui peuvent suivre avec le fourgon, etc.
Alors comment vous faites pour le relever? Parce que vous avez trois tracés, alors vous avez, comment vous faites pour trouver les routes? Alors, en France déjà, il faut trouver des petites routes, des petits chemins.
Bon, pour les routes, c'est facile.
Pour les routes, c'est facile, mais
toutes ouvertes. Et après, donc pour la trace, on construit notre trace grâce au quartier GN superposé avec le cadastre. Donc pour trouver déjà tous les, on supprime un maximum de chemins privés, sauf quand voilà, il y a un chemin privé qui nous intéresse vraiment parce qu'il est magnifique. À ce moment-là, on va voir le propriétaire pour lui demander l'autorisation de passage. Et donc voilà, après c'est tous des chemins ouverts au cadastre qui sont carrossables. Donc après il faut obligatoirement partir en reco pour voir s'il n'y a pas des B0, hein, les panneaux d'interdiction.
Vous faites la reconnaissance, vous faites tout le parcours, vous faites la reconnaissance.
On fait tous les parcours pour vérifier qu'il n'y ait pas ces B0, donc les panneaux d'interdiction aux véhicules à moteur sur certains chemins. Ils sont souvent par arrêtés municipaux ou voilà, c'est selon les mairies. Et donc à ce moment-là, si on veut vraiment passer sur ces chemins, on demande l'autorisation exceptionnelle de passage aux différentes mairies, etc.
D'accord. Donc et la caravane, elle passe par ces chemins ou elle a un autre trajet?
Passe par la route.
Quand vous
Il y a que les motos. Ouais. En fait, on a les autorisations exceptionnelles de passage. Elles ne concernent que les motos déjà. Donc et puis les fourgons, après tout ça et tout. Nous, notre logistique.
Donc vous êtes combien sur une rando là, à peu près?
En accompagnant, c'est presque un pool de 20 personnes.
Hein, 20 personnes,
Parce qu'il y a les ouvreurs, des fermeurs de pistes qui passent derrière les derniers pilotes. Il y a des Saint-Bernard, enfin, etc. Quoi.
D'accord. Écoute, on va passer un morceau de musique et après, on va parler un peu des 5 bananes que vous allez. Il y en a une qui a commencé. Il y en a 3, hein, deux ou trois qui sont passés déjà.
Ouais, c'est ça, le Marche Moto Madness et Paris-Dunkerque qui sont passés. Ouais.
C'était dimanche dernier, je pense.
C'est ça, c'était voilà. fin mai.
À Gravelines.
Ça s'est terminé à Gravelines.
Au Jambard. Dans
la taverne
du Jambard, voilà. Où on construit le bateau.
C'est ça,
voilà, très bien. Ouais. Bon, allez, on passe à un morceau de musique et on en parle après.
Fire in the sky, there's thunder on the mountain, best seats, chill in the sky. should touch for me to find salvation. You're the only reason that I still believe. I'm not afraid of burning bridges, 'cause I know they're gonna light my way. Like a phoenix from the ashes. Welcome to the future, it's a new day. We don't run, I'm standing my ground. We don't run, and we don't back down. There's fire in the sky, there's thunder on the mountain. Press each tear and be stirred, I was born in love. We don't run, we don't run.
Cocorico Rando, c'est 5 événements en 2018. Michel Alex, on va en parler. Hein. Il y a la cathédrale Moto Trail. Donc,
Qatar, ouais.
La Qatar, la cathédrale, la Qatar Moto Trail. Pourtant, je l'ai lu, le site. Ouais. Donc, je suppose que le Qatar, c'est dans le pays du Qatar.
C'est ça.
Suppose.
Donc, en pays Qatar, proche de Carcassonne, quoi, c'est les châteaux Qatar, c'est les châteaux des Templiers. Donc on essaye de, pareil, hein, de faire découvrir cette région différemment, en passant par les pistes Qatar qui sont vraiment magnifiques, et donc avec des vues sur les pics, des pitons rochers avec le château en haut. Enfin, c'est une région assez impressionnante par ses paysages.
Ouais. Je commence par l'avant-dernière justement, en fait. Oui. Mais sur le site, c'est marqué comme ça, c'est la première, le Qatar. Mmh. C'est le 21 et 23 septembre.
C'est ça.
Donc là, c'est la balade sur 3 jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, effectivement, aussi, sur 3 jours, on peut éventuellement se prendre un grand week-end, poser une RTT, éventuellement. Ouais. Hein, et c'est le but, je pense.
Essayer d'en prévoir un. Parfois, il y a des optimistes qui ne prévoient pas. D'en prévoir une pour le retour, parce que c'est un week-end fatigant.
Oui, voilà. Donc, 2 RTT, éventuellement. Mais si on est sur l'île qu'il faut se rendre au Qatar, dans le pays du Qatar,
c'est logistique, ouais.
Bon, il faut en prendre une plus, quand même.
Essayer de faire un peu du covoiturage, mettre les voitures sur la route.
Il faut noter que dans toute trace, on a des locaux hein, qui nous rejoignent en fonction de leur proximité et donc finalement ça s'inscrit le gros des pilotes à la Paris-Dunkerque, c'est beaucoup de Parisiens par exemple hein, forcément, bon, quand on est à Toulouse forcément on a des pilotes qui arrivent de régions plus proches
hein. Profession, vous avez à peu près, vous savez?
On sait pas. Je dirais que grosso modo, généralement, les possesseurs de Maxi Trail sont des gens qui ont des professions déjà assises et qui peuvent profiter d'un week-end de temps en temps. Quoi,
un week-end de
c'est
temps
clair. Ouais, voilà.
C'est bien pour eux. 3 jours, c'est bien pour eux.
Exactement. Et puis, ce qui leur plaît généralement, c'est que tout est organisé. C'est-à-dire que généralement, ce sont des gens qui n'ont pas trop le temps de s'occuper de leurs loisirs quelque part. Et le fait que tout soit organisé, ça les aide beaucoup. Et généralement, on retrouve un nombre important de pilotes qui nous suivent.
On va reprendre par le départ. Hein. C'est le 23-24 mars passé. Hein, là, c'est en 2018. La marche Moto Magnès France. Alors, c'est où ça?
Alors ça, c'est un petit peu particulier parce que c'est un événement qui vient en fait des États-Unis et qui est maintenant commun dans plus de 20 pays dans le monde et qui se passe donc le même week-end. Donc il y a le marche Moto Magnès Espagne qui se passe pareil le dernier week-end de mars. Et donc c'est un petit peu différent, c'est pas une randonnée, ça se passe sur un terrain privé. Donc là en l'occurrence en 2018 c'est le domaine de Conteville, donc à Dreux, proche de Paris. Et donc là on y fait donc différents ateliers, nous on appelle ça plutôt des manèges. Donc il y a des terrains de cross, il y a de la forêt, il y a des bosses, des descentes, de la boue, de la terre, de
du
l'herbe,
sable. Du sable. Donc, on revient toujours au même endroit.
Ah là, ça se passe vraiment sur un terrain privé.
Ah, sur un terrain privé.
Et nous, bon, on fait des randonnées, c'est notre métier. Du coup, on a fait quelques trois petites traces de randonnées autour du terrain. Mais sinon, ça se passe principalement vraiment sur ce terrain privé, avec plein de manèges différents, pour travailler vraiment sa maniabilité, le contact avec tous les différents types de sols, etc. Et donc ça... là, par exemple, il y avait David Frétinier qui était là, qui donnait également quelques conseils. Donc, c'est pas un stage, mais il était là pour regarder un peu les participants, voir, essayer pour les conseiller, etc. Quoi.
On voit, si on part dans un pays lointain, faire du trail, c'est peut-être celle-là qu'il faut faire, peut-être, former au tout terrain.
Ça permet à nos pilotes qui n'osent pas ou de s'évaluer un peu. On a beaucoup de débutants qui viennent au MMM, justement, avec dans l'idée de faire une trace plus importante plus tard.
D'accord. Et c'est pour ça que c'est la première aussi, parce que il y a les autres qui vont suivre.
Exactement.
Donc il y a Paris-Dakar, Dunkerque.
Ah oui, pas Dunkerque. Un beau lapsus.
Dunkerque. Le 25, 26, 27 mai. Ouais, c'est passé, hein.
Oui, ouais, voilà. Ouais. Ça vient de passer.
Donc là, on part de où à Paris?
Bah, en fait, on peut plus partir de la Tour Eiffel, mais à une époque, c'était encore possible. Maintenant, c'est fini.
Ouais. Donc là, maintenant, on part d'Ennery. Donc c'est juste au nord de Paris. Et bon, il y a deux écoles. Hein. Il y a le désavantage. On parle du pied de du Trocadéro, on part plus de la Tour Eiffel, mais par contre, on n'a plus 45 minutes à se taper en sortant de Paris, on est au bord des chemins. Quoi. Donc on attaque directement à Ennery, super rapidement les chemins, et du coup on commence vraiment son week-end à s'amuser tout de suite.
Donc
quoi.
Là c'est 300 km à peu près, hein. Enfin non, jusqu'à 700 bornes.
700 toujours, ouais.
Et parce que là vous ne faites pas d'une ligne droite. Hein,
on tricote, voilà, ouais.
Vous tricotez, ouais. Et vous arrivez toujours à trouver des petits chemins, des routes.
Eh ouais, bah là franchement, oui, la France c'est vraiment un super terrain de jeu, peu importe la région. Quoi. Enfin bon, forcément il y a des régions qui sont plus fermées que d'autres au niveau des chemins, et puis qui sont moins pourvues de chemins, mais ouais, non, il y a vraiment moyen de s'amuser partout, quoi.
Il y a la Jules César. Ah non, je me suis trompé, écoutez, c'est la Vercingétorix.
Attention.
22 et 23, 24 juin.
C'est ça, la prochaine, là, dans deux semaines.
Voilà, c'est ça, c'est la prochaine, oui. C'est complet.
Et ouais, et ouais, elle a été pareil, comme le Paris Dunkerque, super rapidement complet. Tu m'as dit tout à l'heure.
Voilà. Donc
là, c'est en Auvergne.
En Auvergne. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça doit être sympa en Auvergne.
Ouais, 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 ouais. Super. Bah, c'est vraiment le paradis là-bas. C'est vraiment des paysages magnifiques. Et voilà, on va tourner un peu autour du Puy-en-Velay, etc. Quoi.
Et là, c'est une boucle. Vous revenez à chaque fois ou...
Alors là, c'est différent que le Paris Dunkerque, qui est forcément, on est obligé de rejoindre un point A et un point B. Et là, par contre, le point de départ et le point d'arrivée est le même, comme sur toutes nos autres randonnées. Et donc ça fait un 8, et du point de départ on va aller au premier bivouac qui se rapproche du Puy-en-Velay. Après on va faire une boucle pour revenir à ce même bivouac, donc pour avoir une deuxième étape un peu plus confortable, voyager un peu plus léger, et du coup après la troisième étape qui revient au point de départ.
Très bien, et puis on va terminer par la Pizzole à La Royale.
La
Royale, on ne sait pas où c'est, hein, mais on sait que c'est en octobre, c'est le 19, 20 et 21 octobre.
Bah, La Royale, comme son nom l'indique, c'est en Touraine, dans la région des Châteaux de la Loire.
Ah,
et donc c'est vraiment les Châteaux de la Renaissance.
Châteaux par les chemins.
D'accord.
C'est ça, donc c'est une région qui est très viticole, hein, donc on a pas mal de vignes. En plus en octobre, les vignes sont
d'un peu de vin,
rouges.
Voilà.
Attention.
Oui.
Ouais, c'est une très jolie période d'ailleurs.
Et là on peut encore s'inscrire, apparemment je ne vois pas complet.
Et non, pas encore complet. Il reste une
peut-être parce que c'est en octobre,
dizaine
alors,
de places. Ah oui, bon, il y a encore le temps. Hein, mais là, il reste entre 8-10 places et puis on clôturera les inscriptions.
Très bien. Ben, on parlera prix. Enfin, on peut peut-être en parler tout de suite. Ça coûte.
Donc là,
pour 3 jours, ça coûte combien?
Nos week-ends pour 3 jours. Donc c'est 420 €. Et du coup, ça inclut donc la trace, les bivouacs, donc avec les sanitaires, etc. Tous les petits déjeuners et repas du soir. Après, donc pour les midis, tous les participants sont libres de rouler à leur rythme et donc de manger où ils veulent. Quoi. Mais voilà,
c'est ça. Le repas, c'est le soir. Ça, c'est
soir
ça,
et matin,
c'est...
tout est compris.
Soir et matin, c'est compris. Ouais, ouais, ouais. Donc le soir, on met les pieds sous la table.
Oui, ouais, voilà, exactement. Donc ouais. ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il y a une assistance, puisque assistance mécanique. Hein, on a un camion atelier qui nous suit. Qui fait des prestations, mais je veux dire, c'est un mécanicien, hein, qui se rémunère.
Ça, c'est Ronny et son équipe de JL Moto.
Voilà. On a des Saint-Bernard qui sont équipés de 4x4 avec les remorques pour récupérer les motos s'il arrive quelque chose. Alors s'il arrive quelque chose, il faut bien se dire que nous sommes dans le milieu d'une promenade et que tout à chacun a pris sa responsabilité, évidemment.
D'accord, très bien. Bon, voilà, on a presque tout dit. Hein. On va passer un morceau de musique.
Allez.
Et on se retrouvera en fin d'émission. Voilà, au téléphone, nous retrouvons Nathalie qui est secrétaire des Ch'tis Tracks de Billy Berclos. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour, bonjour, bonjour.
Voilà, les Ch'tis Tracks de Billy Berclos organisent leur deuxième rassemblement les 29, 30 et 1er juillet.
Voilà, tout à fait. Donc ça se passe sur la base de loisirs d'Edovis, dans la commune de l'Estrême.
Voilà, donc avec tout un grand programme, et animation, country, buvette.
Tout un grand programme. Alors je précise que l'entrée et le camping sont gratuits.
C'est une bonne chose.
Donc voilà, c'est super. Donc il y aura un rassemblement en majorité de trek, de motos, camions, voitures américaines, voitures de prestige. Voilà, tout ça rassemblé pendant les 3 jours. Il va y avoir une balade qui va être organisée le samedi à partir de 14h. Ensuite, une parade le samedi à partir de 21h30. Donc, c'est une parade nocturne. Et là, les camions vont nous accompagner. Une troisième balade le dimanche à 14h. Et donc là, ce sera suivi d'une bénédiction.
Oui.
Voilà. D'accord. Au niveau des animations, vous allez avoir des prestations de danse de country, de danse indienne, des défilés de pin-up. Il va y avoir aussi une sélection du plus beau trek, plus belle moto, plus belle voiture. On va offrir des bons d'achat à dépenser chez les commerçants du site. Des tombolas, des nombreux lots, dont un blouson d'une valeur de 300 euros à gagner.
Voilà. Oh bah, je pense qu'on va venir.
On attend du monde. Des animations toute la journée, de la restauration, des stands, un tatoueur, des concerts. Voilà, tout pour s'amuser. Alors
pour les concerts, on connaît les groupes.
On connaît le groupe, mais c'est une surprise.
C'est une surprise. C'est du rock'n'roll.
C'est du rock'n'roll, ouais. C'est des prestations, c'est un peu des prestations de Johnny Hallyday. Voilà. Enfin, j'en dis pas plus. C'est des surprises.
D'accord. Très bien. Voilà. Donc, on peut encore réserver des stands si on veut présenter ou vendre des choses. Hein,
oui, tout à fait. On peut encore réserver des stands. Là, vous allez sur notre page Facebook. Là, vous allez avoir notre petite affiche donc sur la page et vous avez le numéro de téléphone pour tout contact, pour les réservations de stands. Voilà.
Donc, les horaires pour le 29, 30 et 1er juillet ?
Alors, ça commence le vendredi. Donc, à partir de 15h, on commence à recevoir les commerçants, mais aussi les trekkers venus des quatre coins de France, mais aussi de Belgique, Italie, Allemagne. Donc voilà, à partir de vendredi 15h jusqu'au dimanche.
Alors ça ne ferme pas, c'est continu.
C'est continu.
Vous avez une bonne santé, hein.
Voilà, oui.
Jour et nuit, voilà.
On est nombreux pour voilà.
Je me pose une question, pour les tracks, pour la balade, en plus c'est balade nocturne, ça va vous faire un grand cortège, hein.
C'est une petite, en fait, c'est une balade, c'est une parade qui va tout autour de la ville de l'Étrem. Ça va faire quand même une sacrée balade, oui, parce qu'on attend près de 200 trikes, motos, plus les camions, une vingtaine de camions à peu près.
Alors c'est vous qui encadrez pour la sécurité tous ces gens ?
On a des motards avec nous, des potes, et puis voilà, ils nous encadrent pendant les balades.
Très bien, on rappelle, 29, 30 et 1er juillet hein, sur la base de loisirs de l'Estrem. Hein. Voilà.
Voilà, si vous
deuxième rassemblement du trek, oui.
Voilà, je voudrais remercier surtout c'est le président et maire des terres, oui. Monsieur Bruno Fischer, président du CCFL, donc intercommunautaire de l'île Flandre-Lys, pardon, et puis le maire de l'Étrem, Monsieur Hurlu, qui nous ont bien aidés pour ce rassemblement.
Eh bien voilà, on les remercie.
Voilà, mais écoutez, merci à vous.
Merci d'avoir appelé, merci et bonne balade, hein, et puis deuxième rassemblement.
Voilà, et on vous attend tous nombreux.
Hein. On viendra. Merci, au revoir. Au revoir.
Voilà, au revoir. Au revoir.
Voilà, et pour terminer cette émission, nous avons Gilou, de l'info tout terrain avec Gilou, oui. Du site internet Mes Motocross. Gilou, bonjour.
Oui. Bonjour, bonjour à tous.
Je rappelle bonjour. Que, attention, Mes Motocross, hein, qui a pour vocation, un site qui a pour vocation de conserver en mémoire les historiques et les résultats de tous les principaux événements qui génèrent l'histoire du motocross. C'est une bible, une grosse bible, mais c'est sur internet.
Ah ouais, tout à fait, c'est sur internet et puis voilà. Bon, maintenant ça commence à être connu hein, dans le milieu du motocross et puis d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'avoir un article dans Moto Verte du mois de juin. Donc si vous regardez Moto Verte de magazine de ce mois-ci, eh bien il y a à nouveau un article sur mes motocross et pas que, hein, y a sûrement également, mais c'est assez intéressant de voir comment ça évolue tout ça. Et moi, je suis vraiment, je m'éclate.
Il y a des parfait, fiches des pilotes, hein, leur palmarès, leur âge.
Oui, on essaye de donner le maximum d'informations. Et en fait, les professionnels s'en servent pas mal, les journalistes, hein, parce que lorsqu'ils font des sujets, ça leur donne une base de données importante. Et puis, on essaye de toujours la perfectionner, de la rendre plus simple d'accès, tout ça. Donc, puis ça va évoluer encore. Hein.
Mais tu fais ça gratuitement, Gilou ?
Ah ouais, ben oui. je vais peut-être
100%, que... 100% bénévole.
Ah bah ouais, ben, remarque que j'ai travaillé 30 ans à la Croix-Rouge, alors c'est peut-être pour ça.
Ah bah,
il y a des antécédents.
Voilà. Ouais. Donc c'est bénévole, mais c'est une pure passion, donc il n'y a pas de... Mais je me demande si je ne veux pas faire payer à force, parce qu'on ne sait jamais. Non mais, c'est une bonne idée finalement, je vais y réfléchir à tout ça. Bon. Ok.
Tu voulais nous parler du Grand Prix d'Angleterre qui s'est déroulé le 3 juin à Materlé-Bessin, avec un accrochage entre deux pilotes, les favoris en gros.
Oui, tout à fait.
Si on fait un parallèle, c'est à peu près Rossi et Marquez en vitesse, quoi.
Voilà, tout à fait. Alors, moi, j'en ferai pas tout un plat de cet accrochage. Ça s'est déroulé donc en première manche en Angleterre, à trois tours de la fin. Kéroli était en tête, Erling c'était deuxième, et comme toujours, il est à 10 minutes de la fin de la manche, Erling accélère et revient sur Kéroli.
Ce sont les pilotes qui sont en tête du championnat du monde, hein ?
Ouais, tous les deux, ils sont en tête,
oui.
Et puis par exemple... Premier et deuxième, et il faut savoir par exemple qu'on s'était quitté la dernière fois sur le Grand Prix de Russie, il y a eu trois Grands Prix disputés, hein. Lettonie, Allemagne et donc l'Angleterre, et Erling a gagné les trois Grands Prix, et en plus il a gagné les six manches, donc c'est vraiment le patron. Bref, Erling c'était vraiment, donc, était second, et ils sont revenus tous les deux, et Kéroli était à ce moment-là en tête, ils sont revenus tous les deux sur un attardé. Et le problème c'est que l'attardé, on lui a présenté le drapeau bleu, c'est-à-dire que on lui signale qu'il y a les leaders qui vont lui mettre un tour, donc il doit lui se faire en sorte de ne pas gêner les attardés. Et il a regardé d'un côté, il a vu arriver Erling, il n'a pas vu que de l'autre côté il y avait Kéroli. Voilà. Ce qui fait que Kéroli, ça l'a gêné un tout petit peu, et Erling, ça a sauté sur l'occasion, si je puis dire. Et donc, ils sont arrivés dans le virage, et dans le virage, Erling s'est pris la corde, et Erling s'est retrouvé à l'extérieur. Comme c'est un virage en épingle, il y a l'accélération juste derrière. Erling, ça a volontairement, je dirais, élargi.
C'est un bloc passe qu'on peut dire, Gilou, qu'on peut expliquer ça, parce qu'en cross, ça se fait beaucoup de bloc passe.
J'ai pas voulu le dire pour les gens qui ne savent pas, mais donc un bloc passe. Et encore, c'est même pas vraiment un bloc passe, parce que c'est surtout qu'il a pris vraiment la trajectoire. Il se touchait pas à la sortie du virage, et Kéroli, lui, est venu se rapprocher pour couper la trajectoire, et Erling n'a pas cédé. Donc, si tu veux, ça aurait pu se passer différemment. Voilà, mais tous les deux, ils n'ont pas voulu céder. Bon, ils se sont accrochés. Kéroli est tombé, il est reparti tout de suite, hein, parce qu'il ne s'est pas fait mal et tout. Il est remonté tout de suite sur la moto. Mais ce qui est un petit peu gênant dans cette histoire, c'est que Erling, c'est vraiment au-dessus du lot. Il est plus fort actuellement que Kéroli, ça ne fait aucun doute. Et il aurait pu le doubler autrement.
Et donc, résultat des courses, il ne se parle plus.
Disons que c'est un petit peu froid.
Enfin, ils mangent plus ensemble.
De toute façon, c'était toujours... Déjà, ce sont des équipiers parce qu'ils roulent tous les deux pour KTM, mais ce n'est pas les mêmes teams. Hein. Kéroli, il est sous le vent, si je puis dire. Il est avec Koldenhoff. Et Erling, il est tout seul avec son stand. Donc, ils sont séparés. Mais il faut savoir aussi que Kéroli, il a une grande carrière, il a lui aussi parfois été un petit peu rude dans les dépassements. C'est aussi du motocross. En motocross, surtout maintenant, les niveaux sont tellement proches, les motos sont tellement toutes identiques et les trajectoires sont souvent uniques. eh bien, pour passer, il faut forcer. Il faut forcer le passage. Donc, c'est le block pass, c'est arrivé avec le motocross, c'est comme le supercross, et ça arrive en motocross. Là, il y a eu une petite chute de Keroli. Ils se font un petit peu la tête maintenant. En plus, Erling s'en rajoute après, post-épreuve, par des vidéos, des choses comme ça. Il n'est pas toujours très fair-play, très sportif dans l'âme. Et voilà, il a un caractère assez curieux. En même temps, c'est un jeune pilote, il a gagné très jeune. Donc forcément, tout le monde de son entourage lui dit toujours tout ce qu'il fait, c'est fantastique, il est beau, il est jeune, tout ça. Voilà.
Et bien, donc ça, c'était ton premier sujet que tu voulais nous parler un peu de ce Grand Prix d'Angleterre. Et là, je sais que tu es dans ta chambre d'hôtel et tu es à Saint-Jean-d'Angély pour le Grand Prix de France qui aura lieu donc ce week-end.
Oui, tout à fait, ce week-end. Alors, le Grand Prix de France, donc Saint-Jean-d'Angély, hein, dans le 17, Charente-Maritime, à côté de, pas loin de Royan, par exemple. Et donc, il y a plusieurs choses. Déjà, Saint-Jean-d'Angély, Grand Prix de France, c'est le 10e Grand Prix, c'est-à-dire on est à mi-championnat. Donc, lorsque le Grand Prix se sera déroulé, on basculera sur la deuxième partie. Et donc, pour ce Grand Prix de France, bien sûr, les favoris, encore une fois, Erling et Keroli en 450 cm3, à la catégorie MX2. Je reste sur cette catégorie. Les outsiders, on va dire, le Belge, Clément de Salles sur la Kawasaki, Romain Fèvre, le Français, et Gauthier Paulin, l'autre Français. Et j'insiste sur Romain Fèvre et Gauthier Paulin, parce qu'ils vont être en France, donc ils ont le public avec eux, et les pilotes français avec le public sont galvanisés par l'ambiance et en général se surpassent. On a toujours des super courses. Pourquoi pas une petite Marseillaise après la course le dimanche soir.
Bah, c'est le Grand Prix de France aussi. C'est un peu comme notre pilote Yann Zarco en MotoGP. Hein. On y a cru aussi parce que moi personnellement je suis un peu plus piste. Oui. C'est notre ami Guy Pilardi qui malheureusement a eu des grands problèmes, des petits problèmes. Et des gros problèmes d'un automobiliste qui lui a coupé la route et qui s'est retrouvé. Oui. Il se retrouve maintenant à l'hôpital avec une jambe cassée. Oui. On retrouvera dans 2 mois. Voilà.
Oui, mais il est rentré chez lui, il est un petit peu mieux. Donc on a hâte de le retrouver. Il devait être là, Guy, mais bon, voilà. On va le retrouver bientôt debout et ça va aller. Ouais. Donc ce Grand Prix, moi j'y crois quand même, malgré les favoris Erling et Keroli qui sont au-dessus du lot, je crois quand même à nos deux pilotes français, notamment Fèvre et Paulin. On fera le point après le Grand Prix, hein, on fera une émission et on verra bien. Oui. Mais j'y crois quand même, parce que je te dis, le public est quand même, c'est un élément, un facteur extraordinaire. Et puis il faut savoir que Romain Fèvre, par exemple, le dernier Grand Prix de France qui a lieu ici, c'était il y a 2 ans, et Fèvre l'avait emporté. Face à Gagère. Oui. Mais le problème, c'est que Erling aime bien ce Grand Prix aussi, parce que il a couru, le Grand Prix a lieu là, ici en 2012, et Erling courant en MX2 dans la catégorie des 250 cm3, il l'avait emporté, il a eu lieu aussi en 2014, il l'a emporté, et puis en 2016, il l'avait également emporté en MX2.
Donc, ah, c'est gros morceau, quoi.
Ah oui, mais c'est vraiment, Erling, c'est un monstre. J'avais dit l'autre fois, la dernière mission qui tournait à 47 points de moyenne, sachant qu'un Grand Prix, c'est maximum 50 points qu'on puisse avoir. Donc, aujourd'hui, il n'est plus à 47, il est à 48,4. C'est-à-dire qu'il a augmenté sa moyenne, qui était déjà exceptionnelle. C'est-à-dire que ça correspond en manche à une victoire et un petit peu mieux qu'une deuxième place.
Donc, est-ce qu'il a déjà été pilote champion du monde ?
À Erlings, oui, il a été champion du monde, c'est en MX2 qu'il était. En 450, c'est la première année qui court vraiment pour le titre. Et parce qu'il a été blessé, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on dit régulièrement qu'Erlings, il peut être battu par Erlings. Il faut savoir qu'en MX2, par exemple, il a perdu 2 championnats qu'il dominait largement, il avait chopé au moins 100 points d'avance et qu'il a perdu parce qu'il s'est blessé.
En gros, c'est notre Mac Marquez sur la piste, en fait.
Ah oui, c'est un gars qui prend beaucoup de risques. Et actuellement, Erling, il a 54 points de plus que Keroli, qui est deuxième. 54 points, dire, c'est déjà
pas,
beaucoup.
On n'est pas encore à la moitié du championnat. Ah si, presque. Hein.
On va y être là pour le Grand Prix de France. Mais 54 points, ça fait déjà plus qu'un Grand Prix. C'est-à-dire que si Erling ne marque aucun point, par exemple, au Grand Prix de France, et que Kyrgyz gagne les deux manches...
Ah, mais avec des six, Gilou, on ne sait jamais. Hein. On ne peut pas prévoir.
Pour moi, ce sera Kyrgyz qui sera champion du monde. Parce que je trouve que Erling se prend trop de risques. Et il essaye toujours de revenir très vite pour se placer en deuxième position et rattaquer sur la fin. Mais lorsqu'il est par mal, il prend beaucoup de risques quand même.
On verra ça le 7 octobre. Ce sera la fin du championnat.
Ouais.
Aux USA. On va te laisser, Gilou. Merci d'avoir nous avoir expliqué hein, le cross, hein, parce que voilà,
ça va être formidable demain.
C'est une discipline qui est un peu spéciale, pas spéciale, mais un peu par rapport à la vitesse.
Ça va être grandiose, et puis on aura l'occasion d'en reparler parce qu'à côté de ça, pour le public, il y a quand même, toi, là, j'ai vu sur le circuit, ils ont mis des grilles encore une fois. Il y a des grilles de 2 mètres de haut qui gâchent tout pour la protection. On en reparlera dans
Une les protections, chronique. Et puis aussi, tu nous parlais aussi de la publicité, hein.
Oh là là,
les panneaux de pub qui cachent la course, surtout en motocross. Voilà,
Ah oui, je vais mettre je vais faire des photos, tout ça, et puis ça va argumenter une prochaine rubrique. Voilà.
Tu nous appelleras. Alors pas le mois prochain, parce que là, on sera en vacances en mois de juillet, mais au mois de septembre, écoute. Désolé.
De toute façon, je serai là.
Voilà, très bien. Merci. Bonne soirée. Et puis, passe un bon Grand Prix de France.
Ouais, on va essayer. On va encourager les Français. J'ai le drapeau, j'ai tout ce qu'il faut.
Impeccable. Et le sifflet aussi.
Ah oui.
Très bien, merci.
Allez, de rien. Ciao les gars, à bientôt.
Voilà, on revient avec Cocorico Rando. Tiens, le cross, ça vous dit quelque chose, vous? Vous avez fait du cross? Parce que la rando, le cross...
Moi, j'ai eu une RM 175
Vous faites la marche moto Magnès France, c'est un peu s'entraîner sur des buts, et puis non. Oui, évidemment, moins vite. Mais...
Ah, le terrain est retravaillé un petit peu quand même pour accueillir les maxi-trails, hein, mais oui, ça peut s'assimiler à...
Ce qui est surprenant, c'est qu'on a des pilotes très expérimentés pour certains qui nous émerveillent à chaque fois parce qu'ils manient une 1200 GS comme si c'était. C'est surprenant.
Étonné par certaines personnes qui pourtant c'est quand même c'est assez incroyable. Haut, c'est assez lourd incroyable. Quand même. Hein. C'est pas un trail très léger quand même 1200 GS.
Ah ouais, mais ça nous émerveille presque hein, parce qu'ils passent partout, mais avec une facilité surprenante quoi.
Est-ce que vous avez des gens qui ont fait des grands parcours déjà, Dakar, je sais pas Dakar, mais au Maroc
Ah oui, Maroc, c'est assez fréquent. Hein, ils font régulièrement le Maroc et puis en fait, ils font nos randos pour ne pas perdre la main et ne pas s'ennuyer quoi, le reste du temps. Mais sinon, y en a qui voyagent beaucoup. Et...
Actuellement, on a un ouvreur, un pilote qui est ouvreur chez nous assez régulièrement, qui rentre pile du Maroc, là, où il a passé 3 semaines de piste. Hein.
Alors justement, les gens qui sont ouvreurs, eux, ils doivent avoir aussi une connaissance du terrain aussi.
Oui, Là, il faut que ce soit...
Il faut qu'ils puissent passer par où ? Pas partout. Il ne faut pas prendre la légère, la grande.
Comment
ça s'appelle hein.
En fait, ils passent par la trace extrême. Ouais. C'est celle qui sera toujours reconnue. Et forcément, ils doivent être fiables. Quoi.
Donc, on rappelle, 20 personnes, 20-25 personnes.
Le staff, en gros, c'est 20 personnes.
Pour le staff. Voilà. Donc, le prix, on rappelle, c'est 420 €.
420 €.
Donc, quand on arrive, on a le trajet, on le met sur le tripi.
La trace.
C'est surtout le tripi, en fait, hein, qui est utilisé sur le jour de compétition.
Hein, en fait, 30%.
Et si on n'a pas le tripi, parce que moi, j'ai pas de tripi, par exemple.
En fait, on envoie les traces au format TRB, donc qui est le format tripi. On les envoie aussi en GPX, donc qui vont s'adapter c'est des points GPX, c'est un format qui s'adapte sur tous les GPS, donc Garmin, TomTom, etc. Voilà. Et forcément, on l'envoie aussi en format PDF pour ceux qui.
Ça, c'est en papier.
Pour les old school qui se la font au dérouleur papier.
Il y a Nico qui sourit, mais.
Il y en a plus
que. Les gros dinosaures de l'informatique, ils n'ont pas encore trop pigé le truc. Hein. C'est, voilà quoi. L'émission se termine. Et il suffit de faire Cocorico Rando sur un Google
cocoricorando.fr,
on le trouve. Hein. Voilà. Et on peut trouver vos coordonnées, téléphone. Vous avez un Facebook aussi, j'ai vu.
Bien sûr, le Facebook, la page de Cocorico Rando et des différents événements.
Très bien.
Pas hésiter à nous rejoindre, on met des petites infos, les petites vidéos, tout ça.
Bon, bah, très bien, l'émission se termine. Nico, à la prochaine.
À la prochaine, donc on n'y sera pas, nous. Hein.
On n'y sera pas, mais on espère qu'on sera là dans 3 semaines.
Mais
un
si
mois.
Vous allez revenir, vous allez revenir. Voilà. Ça va aller.
Alex, merci.
Les Royal Enfield,
bonne,
de ces calmes.
Bonne continuation. Michel aussi.
Ouais, merci.
Pour cette association. C'est une association, en fait, non, c'est une SRL.
C'est une SAS.
SAS. D'accord. Ouais. Ouais. Écoutez, bonne continuation, et puis on se retrouvera peut-être d'ici là, d'ici la fin de l'année.
Oui, voilà, avec grand plaisir.
Vos histoires.
Ouais, ouais, ouais.
Merci, Laurent.
À bientôt.
Ciao. Ciao.